20h, 21h, France Info, les informés, Pierre Neveu.
Bonsoir, heureux de vous accueillir, de vous retrouver sur le plateau des informés de France Info, votre émission de débat. France Info la radio, France Info la télévision, le canal 27 de la TNT, France Info les réseaux sociaux, franceinfo.fr. Alors pour débattre de l'actualité ce soir, nos informés sont Hélène Risser. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Journaliste sur la chaîne Public Sénat, vous animez l'émission Hashtag, c'est ça, une émission
oui,
de décryptage des réseaux sociaux ?
Des discours politiques avec leur caisse de résonance sur les réseaux sociaux, particulièrement frappant d'ailleurs dans ce mouvement des Gilets jaunes.
Alors c'est à retrouver, si on ne le regarde pas en direct, sur le replay ?
Sur le replay, voilà, et ce soir à 00h30 à l'antenne aussi.
Alors bonsoir Marcus Gabriel.
Bonsoir.
Je vous présente, vous êtes philosophe allemand, auteur du Pouvoir de l'art aux éditions Saint-Simon. On va parler des Gilets jaunes dans un instant, mais on va parler aussi d'art sur France Info. Bonsoir Nathalie Moret.
Bonsoir. Bonsoir.
Journaliste politique dans le groupe de Presse Ebra qui rassemble de nombreux titres de l'Est de la France comme l'Alsace, le Progrès ou encore le Dauphiné.
C'est ça.
Bonsoir Bruno Smadia, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur du Mobile Festival, 14e édition. En un mot, on filme avec son mobile
Ça
devient un chef-d'œuvre.
Un mobile, une minute, un film.
Ah ben ça c'est très, très vite expliqué.
C'est une façon de le présenter.
Voilà, alors, au sommaire de ces informés du samedi, la journée d'action des Gilets jaunes, plus de 2000 manifestations, journée de mobilisation, d'opérations escargot, de blocage des routes, des rocades, des péages, mais aussi des frictions sur les barrages avec des blessés, avec un mort, une femme mortellement heurtée par une conductrice ce matin. L'opposition demande au gouvernement d'entendre la colère des citoyens. Et puis dans ces informés du samedi, on va parler du pouvoir de l'art, puisque l'art est dans l'actualité en ce moment, de Banksy à Jeff Koons, ou encore de cette toile de David Hockney, vendue plus de 90 millions de dollars cette semaine. Hockney devient l'artiste vivant le plus cher de l'histoire. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire de notre société ? Eh bien, on en débattra dans ces informés du samedi. Soyez les bienvenus. Alors le premier débat de ces informés de France Info porte donc sur cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. 282 000 participants selon les chiffres officiels fournis tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur. Plus de 2000 rassemblements de Perpignan à Cognac, de Dijon à Haguenau, du péage d'Auzulay aux Champs-Élysées tout à l'heure. Voilà ce que l'on pouvait entendre sur les barrages.
On n'a plus de pouvoir d'achat avec notre propre salaire, c'est fini ça.
Et tout le monde parle aussi du gazole, mais il n'y a pas que gazole, comme dit ma collègue, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le réservoir, on va dire. Et là, les gens, ils en ont marre. Ils n'arrivent plus, comme on dit, à subvenir à leurs besoins. Il y a le loyer, il y a la flotte, il y a l'électricité, il y a tout ce qui s'ensuit. On n'y arrive plus. Même nos enfants, on est obligés de les priver parce qu'on préfère avoir à manger dans le frigo que d'aller au cinéma et tout ça, quoi.
Nathalie Moret, expliquez-moi cette révolte des Gilets jaunes. Est-ce que c'est juste l'expression d'un ras-le-bol fiscal ou ça va plus loin ? C'est un acte de désobéissance ?
C'est beaucoup plus qu'un acte de révolte vis-à-vis du prix du gazole. On l'a vu, ça fait plusieurs jours que nous, on est sur le terrain, mes collègues sont sur le terrain dans les journaux pour lesquels je travaille, et ça dépasse largement le prix du gazole. Aujourd'hui, les gens, ils l'ont très bien dit dans votre sujet, ils en ont marre de ne pas pouvoir vivre avec leur salaire. Et ça percute totalement le discours d'Emmanuel Macron qui, depuis un an et demi, nous dit que le cœur de son action va vers les gens qui travaillent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a augmenté la CSG, par exemple, sur les retraités. Donc le fait que ce soit cette France qui travaille, qui soit aujourd'hui en masse sur les routes de France pour bloquer les ronds-points, est quelque chose de très, très inquiétant. Alors évidemment, on peut dire 300 000, c'est pas énorme à côté des 6 millions de vues de la vidéo de Jacqueline Mourot. Cela dit, c'est 300 000 personnes quasiment sur 2000 points. Ça veut dire qu'il y a des tas d'endroits en France, dans une France même parfois reculée, où il n'y avait sans doute jamais eu de manifestation, jamais eu de blocage. Et effectivement, je trouve que 300 000 personnes avec en plus une personne décédée, ça fait combien d'années en France qu'il n'y avait pas eu de mort dans une manifestation ? Oui, je trouve que c'est assez dramatique ce qui se passe aujourd'hui.
Hélène Risser, votre regard sur cette journée de mobilisation, ça marque une fracture ?
Déjà, c'est pas facile de passer d'un mouvement qui a effectivement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux à un mouvement réel. Et il y a quand même une caractéristique, parce que vous parlez de manifestation, mais le mot manifestation manifestation, il est compliqué à utiliser parce que normalement, le mouvement se développe sur les réseaux sociaux, on l'a vu, hein, par exemple la marche climat, voilà. Et puis il y a des associations qui prennent le relais pour organiser concrètement, demander des autorisations dans les préfectures. Et là, il n'y a pas du tout eu le cas, ça n'a pas existé. C'est pour ça que manifestation, c'est compliqué. C'était des mouvements effectivement très spontanés, avec en plus une défiance vis-à-vis de la police, des messages souvent échangés sur Telegram pour pas déposer d'autorisation. Donc on arrive dans quelque chose qui est complètement incontrôlé. Vous dites ça peut faire peur, c'est vrai qu'on voit le résultat. Il y a plus de 200 blessés. Une personne décédée, cinq blessés très très graves. Enfin, c'est quand même des chiffres que je trouve affolants. Et pour moi, mon analyse, ce serait dire que voilà, une somme d'individus, ça ne fait pas un collectif. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On voit une somme d'individus, mais le collectif, il est où ?
Marcus Gabriel, vous qui êtes philosophe allemand, quel est votre regard sur ce qui se passe en France, sur cette mobilisation spontanée via les réseaux sociaux des citoyens qui s'habillent en jaune et qui disent on en a assez des taxes, mais on en a peut-être aussi assez de la politique.
Je crois que c'est le retour du réel. Nous assistons à quelque chose de très très réel qui commence évidemment dans un espace purement numérique, symbolique et en un certain sens fictionnel. Donc ça, c'est quelque chose vraiment du réel, du matériel. Il y a des attaques, quelque chose brûle, on bloque les routes. Donc je crois que c'est vraiment une manifestation de la vérité. Hein. Les gens demandent la vérité, le réel, etc., plutôt qu'un beau discours. Donc, en ce sens, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des décennies.
Hein. Bruno Smadja, est-ce que ce sont les Gaulois réfractaires qui se sont réveillés, qui se sont révoltés aujourd'hui parce que des mots ont été employés par le chef de l'État, des mots qui ont été violents depuis un an et demi maintenant. Est-ce qu'il y a aussi ce ras-le-bol qui s'exprime ?
Moi, je me rappelle de mes cours d'histoire quand j'étais jeune et il y avait les jacqueries.
Oui.
Les jacqueries, c'était des mouvements paysans qui luttaient souvent contre des impôts abusifs de l'aristocratie et qui, de manière très violente, allaient attaquer le pouvoir et allaient demander leur dû. Souvent, il y avait pas une structure, il y avait pas une action politique, il y avait peu d'objectifs, ça se terminait souvent par leur mort à eux, en tant que pauvres paysans face à un pouvoir qui était très puissant. Et là, je trouve qu'il y a un peu ce sentiment quand on lit les différentes interventions, quand on vous entend, on voit que les thématiques qui sont abordées sont extrêmement larges. Il y a des gens qui vont défendre l'écologie, d'autres qui vont défendre le prix du diesel, qui est une niche fiscale qui a plus aucun sens aujourd'hui. Et donc il y a tous ces éléments-là, mais ce qui paraît commun, c'est un sentiment de mal-être, un sentiment d'un manque profond de pouvoir vivre de son travail.
On va poursuivre ce débat dans un instant, les informés de France Info, les gilets jaunes, la mobilisation avec aussi des incidents. Mais avant cela, on fait un tour d'horizon de l'info avec vous à 20h11, Romain Desec.
282 000 personnes ont donc participé au mouvement des Gilets jaunes, chiffre fourni par le ministère de l'Intérieur, aussi bien dans les grandes villes que dans celles de taille moyenne. 1 400 sites étaient à 19h toujours occupés, notamment à Paris. Des incidents ont eu lieu dans divers rassemblements. Une femme est morte en Savoie, renversée par une voiture. 227 personnes sont blessées, dont 6 grièvement. Des forces de l'ordre ont également été touchées. Au total, il y a eu 73 interpellations. Dans un peu moins d'une heure, l'équipe de France de rugby affronte l'Argentine. Test match à un an de la Coupe du Monde. Une victoire permettrait aux Bleus de reprendre un peu de confiance. La confiance qui a guidé les Françaises victorieuses. Et c'est une grande première de la Nouvelle-Zélande cet après-midi. Les Bleus ont battu les championnes du monde 30 à 27. Aux États-Unis, Donald Trump est aux côtés des pompiers. Ils sont près de 9000 à combattre les flammes dans deux gigantesques incendies qui frappent l'État américain. Le bilan est très lourd. Plus de 70 morts et des centaines de personnes dont on est sans nouvelles. Le sud de la Syrie, débarrassé de la dernière poche de résistance du groupe État islamique, l'armée syrienne a repris ce territoire après avoir négocié avec les djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près d'un millier de combattants se sont déportés à l'est du pays dans le désert.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Avec vous quatre sur le plateau, on continue à débattre de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. Hélène Risser, journaliste sur la chaîne publique Sénat. Cette semaine, le chef de l'État a été interviewé sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le chef de l'État qui a fait une sorte de mea culpa en disant « je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec les dirigeants de ce pays ». Que montrent les images aujourd'hui ? Que vraiment il y a une fracture, que vraiment le chef de l'État n'a pas réussi à réconcilier les Français.
Il y a une défiance, c'est évident, on le voit dans ces manifestations, même si les revendications effectivement sont assez éclectiques. Après, voilà, de dire il faut que le chef de l'État entende, comme disent certains, il y a eu un mort, et de rejeter la responsabilité sur le chef de l'État comme certains l'ont fait, et même des responsables politiques un peu facilement. Enfin, voilà, effectivement, on voit qu'il y a eu, il y a eu ce mea culpa qui a été fait avant les mobilisations d'aujourd'hui.
Trop tôt, peut-être ?
Après que le mouvement, je pense qu'il y a eu peut-être au départ une difficulté de la part du pouvoir à appréhender la montée en puissance de cette mobilisation qui s'est faite progressivement, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais quand même tout le mois d'octobre, on voyait effectivement les appels à la mobilisation monter. La fameuse vidéo dont vous parliez de Jacqueline Mourault, elle date de mi-octobre, donc c'est quand même une mobilisation qui est montée progressivement. Et non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ait réagi prématurément. Non, ça, je ne pense pas.
Alors, bon nombre d'automobilistes aujourd'hui ont tenté de forcer ces barrages parce qu'ils avaient de multiples raisons, aller au travail, d'autres activités. Il y a eu des incidents, il y a eu des mouvements de panique. Il y a plusieurs dizaines, peut-être une centaine ou 200 blessés. Surtout un accident mortel ce matin en Savoie. Écoutez, tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il a appelé au calme et il a dit entendre la colère des Français.
J'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun, parce que dans un pays démocratique, le droit doit toujours primer avec aussi la liberté de l'expression, la liberté de la manifestation, mais en faisant attention au respect des autres droits, y compris celui de circuler.
Nathalie Moret, le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas être absent de cette séquence de communication. Lui aussi devait délivrer un message, forcément un appel au calme ce soir.
Alors déjà, c'était sa première grande journée.
C'est son baptême du feu.
À Christophe Castaner. Et d'ailleurs, il l'a particulièrement bien mise en scène. Puisque, souvenez-vous, ce matin, il a mis en scène en direct sur les chaînes Info.
À 9h ce matin, il apprend et il discute avec le préfet.
Il nous apprend qu'il y a un accident mortel. Il y avait France Info d'ailleurs. Et donc, dans le pool, et on apprend tous en direct qu'il y a cette dame de 63 ans qui est donc décédée en Savoie après une échauffourée sur un carrefour. Donc ça, c'est mis en scène. Parce qu'effectivement, on voit le ministre qui est au travail, qui est avec son secrétaire d'État et qui est en lien direct avec les préfets. Donc ça, c'est quasiment une première, et c'était aussi une façon de montrer que l'État était là, bien que effectivement la difficulté pour l'État, c'était qu'il y avait simplement, je crois, 10 ou 15% des 2000 manifestations qui étaient enregistrées en préfecture, donc c'était assez délicat de savoir où ça allait se passer. Mais effectivement, Christophe Castaner, pour son baptême du feu, je trouve qu'il a assez bien réussi du point de vue de la communication politique. Alors effectivement, ce soir, il est dans son rôle, il appelle au calme, parce que n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sur les carrefours.
Et les préfectures aussi ont communiqué d'ailleurs. C'est intéressant de voir, pas que le ministère, les préfectures des différentes...
Bruno Smadja, j'avoue qu'il est un homme de communication via votre festival du film. On filme avec son mobile. Aujourd'hui, tout le monde filme sur les manifestations, tout le monde transmet des images pour les sites de presse, pour les chaînes d'information continue. L'image est importante. Le ministre se devait, lui aussi, d'être présent par l'image aujourd'hui.
Oui, absolument. La caméra mobile a changé profondément le métier des journalistes, puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être partout à tout moment sur l'action. Et donc, c'est des images de citoyens moins contrôlables, moins... Et les premiers, d'ailleurs, c'est les révolutions arabes qui ont amené ça, les printemps arabes, qui ont amené ces images qui ont afflué. Aujourd'hui, il n'y a plus un JT sans qu'il y ait des images qui soient faites par un citoyen et que vous récupérez sur le web, sur YouTube et ailleurs pour la réutiliser. Là, dans le cas présent, les images sont extrêmement importantes. On voit les violences de certains actes. On va en découvrir au fur et à mesure, postées sur Facebook, sur Twitter et ailleurs, qui vont remonter. Moi, juste la petite interrogation que j'aurais, c'est quelle est l'efficacité, quel est l'objectif au-delà de la violence, au-delà de l'envie d'exprimer un sentiment de mal-être. Aujourd'hui, Et est-ce que c'est pas une vieille méthode de manifestation par rapport justement au web, où on peut avoir une efficacité qui est beaucoup plus importante sur les outils de pouvoir et sur les relais de pouvoir pour obtenir des choses? Mais là, on ne sait pas exactement ce qui est attendu en retour.
Votre regard, Marcus Gabriel.
Oui, là-dessus, je suis pas d'accord. Donc, je crois que un problème aujourd'hui, c'est précisément l'irréalité des modes d'expression numérique. Donc, même s'il y a évidemment un certain effet, mais l'effet est restreint à l'internet. Donc, ce que nous voyons en ce moment, c'est vraiment la volonté de changer quelque chose de réel. Par exemple, le pouvoir de l'achat. Hein? Donc ça, un thème, un sujet vraiment réel, et on peut pas éliminer ce problème avec des beaux discours. Donc,
est-ce que je peux ne pas être d'accord avec vous à nouveau,
mais c'est le débat, c'est le but du débat.
Justement, l'internet, par exemple, a permis, avec des sites comme Some of Us, comme Change.org, d'atteindre des résultats sur l'interdiction des plastiques à usage unique. C'est un impact qui est concret, qui a été voté au niveau du Parlement européen et qui est lié à des pétitions et à des et à un soutien qui est fort au niveau du digital, sans aller manifester à Bruxelles, sans brûler du plastique pour autant, mais juste en ayant une action qui est purement digitale.
Alors une question, une manifestation a toujours besoin d'être incarnée par quelqu'un, par un représentant. Y a-t-il véritablement quelqu'un qui représente ce mouvement? On a parlé de Jacqueline Mourot aujourd'hui. On se souvient dans les années 90, il y avait eu une série de mobilisations des transporteurs routiers avec un camionneur, un transporteur cibiste à l'époque. Hein, il n'y avait pas les téléphones portables, qui était surnommé Tarzan à la Cibi. Il est où le Tarzan aujourd'hui? Tiens, je vous pose la question, Nathalie Moret. Est-ce qu'il existe?
Il y a plusieurs Tarzans. Il y a plusieurs Tarzans. Nous, on l'a vu rien que sur notre zone de diffusion. On a plusieurs personnes qu'on a repérées.
Via les réseaux sociaux?
Via les réseaux sociaux, qui ont créé des groupes sur Facebook qui ont été plus importants que les autres. Et effectivement, il y a plusieurs, parfois même deux personnes par département, mais il y a plusieurs Tarzans. Et d'ailleurs, nous, sur notre site internet aujourd'hui, on relayait le fait que tous ces Tarzans-là ne s'appelaient pas Tarzan, mais s'appelaient Emmanuel. C'est-à-dire, comme rappelez-vous, sur Nuit Debout, ils s'appelaient tous Camille. Voilà. Là, ils s'appellent tous Emmanuel, comme le président de la République, et c'est une volonté, effectivement, de se fondre dans la masse et de ne pas être, finalement, si incarné que ça.
Oui, je pense qu'il y a quand même un visage, là, vous parlez de tous ces Tarzans, mais enfin, il y a quand même un visage qui a
Jacqueline
émergé.
Mourot.
Voilà, cette fameuse Jacqueline Mourot.
Via sa propre vidéo.
À travers cette vidéo, et cette vidéo, elle est très intéressante. D'ailleurs, on l'a analysée avec un autre philosophe spécialiste de la colère, Michel Hermant, dans notre émission, et je trouvais que c'était très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi cette vidéo, quand même, 6 millions de vues, même plus, c'est énorme. Et en fait, cette vidéo, elle est très intéressante parce que elle incarne une forme de colère, mais une forme de colère assez bonhomme, assez joviale, non dénuée d'humour. Et là, on voit d'ailleurs le distinguo entre la vidéo, les réseaux sociaux et le monde réel, puisque cette Jacqueline Mourot était beaucoup moins joviale et cordiale aujourd'hui lorsqu'elle a été interviewée. Mais je pense que ce discours a participé beaucoup à la médiatisation de cette vidéo et à son succès.
On va poursuivre ce débat des informés dans un instant. Avant cela, à 20h20, on fait un nouveau tour de l'info avec vous, Romain Desec.
Le mouvement des Gilets jaunes émaillé de tensions à Arras, Tarbes, Strasbourg ou encore Lannion. Des automobilistes ont renversé des manifestants qui bloquaient ou filtraient la route. L'incident le plus grave s'est déroulé en Savoie. Une femme de 60 ans est décédée après avoir été percutée. Au total, le ministère de l'Intérieur dénombre 227 blessés dans les différents regroupements. Et à 19h, au dernier pointage, certains axes autoroutiers étaient toujours bloqués. De l'autre côté de la Manche, à Londres, on a également bloqué des ponts cet après-midi. Mais pour une toute autre raison, les manifestants dénoncent l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. 6000 personnes ont défilé. La tragédie avait mobilisé des dizaines de pays et secoué l'Argentine il y a un an. Le sous-marin San Juan, disparu en mer, a été retrouvé à 870 mètres de fond dans l'Atlantique. Il a implosé, indiquent les autorités. 44 marins se trouvaient à bord. Reste désormais à connaître les causes de ce drame, ce qui prendra du temps. Cette performance retentissante des joueuses de l'équipe de France de rugby, elles ont battu les Néo-Zélandaises 30-27 cet après-midi à Grenoble. C'est la première fois que les Françaises battent les Black Ferns, en espérant que cela inspire leurs homologues masculins ce soir face à l'Argentine. Coup d'envoi 21h05.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Alors sur cette journée de mobilisation des Gilets jaunes, on continue de parler de l'importance de l'image. Il y a eu la communication des Gilets jaunes par l'image, par leur téléphone portable, par nous, les médias institutionnels. Et puis, il y a les politiques qui se sont greffés aussi à ces manifestants de façon plus ou moins spontanée. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de France Info ce matin. Il explique pourquoi il fallait se mobiliser.
J'ai dit aux Français, oui, allez-y, foncez, quelle que soit votre couleur politique. C'est la manifestation du peuple. C'est la dernière chance pour ce gouvernement. Soit il entend la colère du peuple, soit il réoriente sa politique. Et j'ai fait des propositions, je ne suis pas que dans la critique, j'ai fait des propositions très concrètes. Soit alors ça va mal finir. On va y venir.
Nathalie Moret, Nicolas Dupont-Aignan dit ça va mal finir. Est-ce que c'est la parole du politique ou est-ce que c'est véritablement... Le sentiment, ce que l'on ressent lorsque l'on est en région, lorsque l'on est au niveau local.
Alors déjà, quand on est en région, en tous les cas, quand on est dans les mobilisations d'aujourd'hui, ce que l'on ressent, moi j'y étais pas, mes collègues y étaient, c'est effectivement la grande tension qu'il y avait entre les manifestants et ceux qui ne manifestaient pas, entre les gilets jaunes et ceux qui n'en portaient pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il dit lors de son interview, j'ai pas réussi à réconcilier le peuple avec la classe dirigeante, je pense qu'il pensait sans doute aussi qu'il y avait une grande fracture au sein même de la société. Et effectivement, elle s'est illustrée de façon mais criante aujourd'hui. Et je trouve que Nicolas Dupont-Aignan, il va sans doute un peu loin quand il dit « ça va mal finir ». Un, parce que on n'en sait rien. À l'heure où on parle, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Et deux, peut-être que le rôle d'un politique, il est plus d'apaiser, de proposer des solutions et de ne pas claquer l'allumette quand la situation est inflammable. Et je vous rappelle quand même qu'il a dit que le gouvernement était responsable du décès de ce matin, ce qui est quand même particulièrement...
Hélène Risser, c'est quoi la suite? Ce sont d'autres journées de mobilisation ou c'est un vote des extrêmes aux européennes dans 6 mois?
Alors là, je ne vais pas faire de pronostic, je ne vais pas me risquer, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir que les manifestants sont très divisés entre ceux qui appellent à de nouvelles journées de mobilisation, oui. C'est ce que je disais tout
dès
à l'heure.
Demain.
Voilà, dès demain, d'autres qui appellent à calmer le jeu, voilà, donc on voit bien...
Qui appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale.
Voilà, donc on voit très bien, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, une somme d'individus ne fait pas un collectif. Et donc le problème, c'est que là, on n'a pas l'impression qu'il y a un collectif qui émerge. Or, pour qu'une mobilisation soit un succès à un moment, même si elle exprime un malaise sans doute très, très fortement, il faut quand même un rassemblement, une expression collective. Et il y a autre chose que je trouvais d'ailleurs intéressant, vous parliez des politiques. C'est vrai que c'est frappant de voir la manière dont ils se greffent sur le mouvement. Et on pourrait les distinguer des syndicats, notamment, j'en ai écouté Philippe Martinez ce matin, qui justement, lui, n'appelait pas à manifester, avait un discours complètement différent. Et je suis frappée, moi, par ce décalage avec les discours de certains politiques.
Marcus Gabriel, ce problème se pose aussi en Allemagne. L'Allemagne, on va rappeler, c'est là qu'éclate, il y a 2 ans, le Dieselgate. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut changer notre système de consommation, arrêter les produits carbonés pour passer à autre chose, à une autre source d'énergie plus propre, et donc on taxe les carburants. Comment cela est vécu en Allemagne, dans le pays de l'automobile, dans le pays des grandes marques, 800 000 emplois? Comment cela est vécu?
En Allemagne, aujourd'hui, nous avons précisément une révolution pacifique verte. Hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Donc, nous avons une très grande conscience écologique qui définit, pour ainsi dire, notre manière de voir la politique. Et Dieselgate, il faut jamais oublier, fut déclenché par les Américains. Donc,
bien
il
sûr.
Y avait juste...
Ils ont demandé des comptes.
Oui, une attaque contre la Deutsche Bank et le secteur automobile. Donc, ça a à faire avec la dite guerre économique mondiale. Donc, ça commence pas en Allemagne, mais dans ce cas-là, aux États-Unis, parce que nous savons qu'en réalité, le diesel est plus écologique, par exemple, que l'essence. Donc, il y a tout un système de complications qui a à faire avec ça. Mais
ça dépend des critères, quoi. Tout dépend du prisme.
Ouais. Ça se discute quand même. Considérer que le diesel est plus écologique, ça se discute
au
fortement.
Au niveau du CO2, ouais. Mais pas au niveau des NOx, c'est au niveau des particules.
Oui, voilà. au niveau des causes de mort en Europe, du fait des particules fines et du fait de la pollution atmosphérique, c'est quand même considéré, le diesel est quand même considéré comme une des causes principales de ce problème-là.
Mais il n'y a pas que le diesel automobile, il y a le diesel aussi des industries, du chauffage, paquebots de croisière, des cargos, des avions, et il ne faut pas oublier tout le reste.
Oui, exactement, il ne faut pas du tout oublier l'avion, surtout. Donc nous savons que l'avion est tout un autre problème. Le kérosène, c'est pire.
Allez, on va poursuivre ce débat des informés dans 3 minutes. On va continuer à parler avec vous quatre. Et puis, tiens, de l'art, parce que l'art est dans l'actualité cette semaine. Des tableaux qui coûtent cher. Qu'est-ce que veut dire l'art aujourd'hui dans notre société? Restez avec nous. La météo, l'info, on se retrouve dans 3 minutes.
Le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux.
Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et 2 décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps.
Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50Go pour partager mes vidéos de Noël.
Bah, ma vidéo de bûche a plus de likes que la tienne.
Le pack Open Up Fibre 50Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
Like signifie j'aime, offre soumise à condition dont 40€ par mois remboursé pour les nouveaux clients Orange, engagement 12 mois minimum, détails sur orange.fr.
Économie. Plus de 720 millions d'euros de pertes entre 2012 et 2016. Les comptes de l'organisme public de formation professionnelle sont dans le rouge depuis de nombreuses années.
Politique. Un fonctionnement horizontal plus que vertical, c'est l'aspiration des marcheurs. Même dans le nouveau monde, la démocratie participative a ses limites.
Culture. Les aventures burlesques d'un flic français à Miami en duo avec Louis Guzman en partenaire américain.
Pour l'info, 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
On regarde tout de suite la carte du ciel avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Un temps très perturbé et fortement pluvieux demain sur le Roussillon, d'où la vigilance orange crue pour les cours d'eau des Corbières et des plaines de l'Aude, avec de fortes pluies d'orage à partir de la nuit prochaine. Les régions proches des Pyrénées connaîtront également un régime de temps maussade ce dimanche, avec de la neige à moyenne altitude sur toute la chaîne des Pyrénées. Et un vent d'est très turbulent des bords de la Méditerranée à la plaine toulousaine ainsi qu'entre la Corse et le continent. Sur le reste du pays, le vent d'est frais ne dépassera pas une 40 km/h en moyenne, avec un temps pratiquement tout bleu après la levée rapide des grisailles. Notez que la nuit prochaine, les températures vont chuter entre 0 et moins 4 degrés entre la Normandie, la frontière belge et l'Allemagne. L'après-midi, baisse générale des maxima avec 7 à 9 degrés prévus dans la moitié nord et 13 à 15 au sud.
Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
2 points, ouvrez l'info.
On retrouve Emmanuel Gravet pour l'info.
Plus de 280 000 personnes sur 2300 barrages au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Chiffre du ministère de l'Intérieur ce soir qui parle de 1400 sites toujours perturbés. 200 sont toujours bloqués, dont plusieurs autoroutes. Des Gilets jaunes soutenus toute la journée par de très nombreux élus de droite comme de gauche. François Ruffin, le député France Insoumise de la Somme, était à leur côté aujourd'hui.
C'est un mouvement complètement inattendu. C'est une aventure. Moi, je me balade en moto dans la campagne Picarde où il n'y a pas une bagnole. C'est un moment peu ordinaire. Et voir que dès le matin, quand je suis arrivé sur le carrefour d'Amiens, les gens, ils m'ont pas dit gasoil, ils m'ont dit c'est un ras-le-bol général. Et c'est ce que j'entends. Il y a des gens qui me parlent de leur statut d'assistante maternelle, d'autres qui parlent d'enfants handicapés, d'autres qui parlent du SMIC, d'autres qui disent qu'en haut, ils montrent pas l'exemple, d'autres qui parlent des contrats aidés. Je pense que dans ce mouvement, il y a tout qui se mêle. Et ben, moi, je dois être l'oreille de ça pour pouvoir ensuite en être la voix. Mais je dois entendre ce ras-le-bol général. Un profond sentiment d'injustice, à voir que pour les riches, on a enlevé l'ISF, ils gagnent 3 milliards, on met cette année le crédit d'impôt compétitivité emploi, on le double, ça fait 40 milliards, et puis en dessous, eh ben, on rajoute des taxes pour les gens, on leur dit de payer de la CSG, on m'a beaucoup parlé de les retraites aussi. Donc voilà, moi je viens aujourd'hui d'abord tendre une oreille à ça.
Le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin. À plusieurs endroits, des automobilistes ont tenté de forcer les barrages. Une manifestante de 63 ans a été tuée ce matin à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Le dernier bilan du ministère de l'Intérieur parle aussi de 227 blessés, dont 6 gravement, ainsi qu'une dizaine de policiers et de gendarmes et un pompier. 73 personnes sont ce soir en garde à vue. Un vice-président de la métropole de Marseille démissionne après des révélations du journal La Marseillaise. L'élu est propriétaire, selon le quotidien, d'un appartement insalubre dans le quartier de la Belle de Mai, au nord de la ville. Jeudi, déjà, le président de la région PACA, Renaud Muselier, avait suspendu 2 élus, le propriétaire d'un appartement dans l'un des immeubles effondrés et l'adjointe au maire de Marseille en charge du logement et de la rénovation urbaine. Ils sont partis du Honduras il y a un mois. Les premiers sont arrivés ces dernières heures à Tijuana, à la frontière Mexique-États-Unis. La caravane des migrants, comme l'appelle Donald Trump, attend désormais de pouvoir passer la frontière. Ceux qui passeront illégalement n'auront pas le droit de demander l'asile, dit le président américain ce soir, qui a fait déployer 5000 soldats le long de la frontière. Une réunion cruciale pour la survie du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il reçoit demain le chef d'un des partis de sa coalition qui menace de quitter le gouvernement. Tout de suite, la suite des informés, Pierre Neveu.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info, on va laisser pendant quelques instants les gilets jaunes pour s'occuper à une autre actualité, l'art. L'art est dans l'actualité avec Hélène Risser, journaliste sur la chaîne Public Sénat. Vous animez l'émission Hashtag avec le philosophe allemand Marcus Gabriel, auteur du Pouvoir de l'art aux éditions Saint-Simon. On va en parler dans un instant avec Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse Ebra, l'Alsace, le Dauphiné, le Progrès et puis avec Bruno Smadja, fondateur du Mobile Film Festival. On va également parler de votre Mobile Film Festival dans cette émission. Alors, si l'on parle d'art, c'est parce qu'il y a eu, il y a un mois, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, un tableau, une œuvre de Banksy qui s'est tout à coup dégradée volontairement. C'est l'auteur qui avait programmé cette dégradation. Et puis, il y a quelques jours, la semaine dernière, le plasticien américain Jeff Koons qui a été condamné, lui, pour plagiat. Il a plagié dans une de ses créations une publicité pour une marque de prêt-à-porter. Marcus Gabriel, dans votre livre « Le pouvoir de l'art », vous expliquez que l'art est partout. Il y en a dans les fast-foods, il y en a dans nos téléphones, il y en a dans nos voitures. Si nous achetons ces biens de consommation, c'est parce qu'ils représentent quelque chose. Vous écrivez « L'art a pris possession de l'esprit humain ».
Oui, absolument. Je crois que ce que nous appelons l'esprit humain, l'histoire, etc., l'humanité, commence évidemment dans les caves de Lascaux, d'Altamira, etc.
Vous allez loin, là.
Oui, mais là commence déjà l'art. Ça veut dire, c'est quoi l'art? C'est la représentation de notre manière de nous lier avec le réel. Hein? Nous représentons le réel. Hein? Par exemple, en ce moment, les spectateurs, les écouteurs ont un rapport indirect avec nous, ce qu'on appelle les médias. Hein. Il y a une médiation. Voilà, une représentation. Et l'art, c'est une manière de représenter la représentation. Par exemple, peindre des animaux. Hein, au lieu de les confronter. Et ça, c'est l'origine de l'art. Donc, l'esprit humain, notre mentalité, hein, a la forme d'une œuvre d'art. Nous sommes, en un certain sens, toujours en contact avec l'art.
Mais franchement, Marcus Gabriel, l'urinoir de Marcel Duchamp, vous en parlez, l'urinoir de Marcel Duchamp, ouais. Tout le monde le connaît. Des urinoirs, ouais. Il y en a partout.
Ouais.
Mais pour vous, c'est une œuvre d'art? Ça peut être considéré comme une œuvre d'art?
Oui, c'est une œuvre d'art, mais l'œuvre d'art, c'est important de savoir que l'œuvre d'art n'est pas l'objet trouvé, c'est pas l'urinoir. L'œuvre d'art, dans ce cas, hein, c'est l'idée de montrer quelque chose qui ne soit pas une œuvre d'art. Donc l'urinoir n'a rien à faire avec l'œuvre d'art dans ce cas-là, mais c'est plutôt l'idée de le montrer. Donc, l'œuvre d'art, c'est toujours une idée hein, qui est ancrée, évidemment, dans une couche bien sensorielle, matérielle, telle qu'un urinoir ou bien un tableau.
Alors, on va prendre un autre exemple concret. On est en 1994. Il y a une pièce écrite par Yasmina Reza qui est un succès. Ça s'appelle tout simplement Art. C'est avec Pierre Vanek, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini. C'est une pièce mondialement connue qui est encore jouée sur la planète entière. C'est l'histoire de trois copains qui se déchirent autour d'un tableau blanc. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Serge vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Beau.
Blanc.
Blanc.
Blanc. Donc, représente-toi une toile d'environ 1m60 sur 1m20. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale, de fines rayures transversales blanches. Tu vois? Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas.
Marcus Gabriel, un tableau blanc, comme un tableau noir de Pierre Soulages, par exemple, c'est une œuvre d'art?
Oui, évidemment, c'est
Pourquoi
une œuvre d'art. Parce que l'essence d'une œuvre d'art, c'est le suivant, la suivante. Une œuvre d'art, ou les œuvres d'art sont des objets qui existent essentiellement en ce que j'appelle une interprétation. Ça veut dire une performance. Par exemple, une pièce de théâtre est aussi une œuvre d'art. Hein. Mais la narration, le contexte, etc. de cette œuvre va dépendre de notre représentation, de notre interprétation. Donc, les œuvres d'art ne sont pas les tableaux. Par exemple, le tableau blanc ou bien noir n'est pas une œuvre d'art.
C'est parce que nous le regardons.
Exactement. Mais ce qui est très très important, c'est que ce regard-là appartient à l'œuvre. Donc le tableau nous force à le regarder comme si c'était de l'art. C'est pas une projection. Hein, c'est plutôt le pouvoir de l'œuvre même.
Hélène Ritter.
Oui, d'ailleurs, vous parliez de l'urinoir de Marcel Duchamp, qui d'ailleurs a disparu. Hein. Il avait disparu très prématurément, et on a retrouvé. Voilà, ce sont d'autres urinoirs qui ont pris la suite. Mais d'ailleurs, la pièce de Yasmina Reza, qui a été jouée d'ailleurs l'an dernier par un collectif Tejestan très très créatif, elle est très intéressante parce qu'on voit bien toute la discussion qu'il y a autour de ce tableau, bon, qui est pas tout à fait blanc, si ma mémoire est bonne. Hein. Ouais. Comme vous le repreniez dans l'extrait, il y a des fines rayures.
Mais il faut toute vraiment la... les voir. Du fond de la salle, on les voyait pas.
Vous les voyez pas, voilà. Mais toute la discussion et tout le débat finalement social entre ces trois amis qui débattent pour savoir qui a l'ascendant sur les autres. Et l'œuvre d'art, et en l'occurrence cette œuvre d'art, et peut-être l'art contemporain aussi, est beaucoup utilisé dans les rapports de pouvoir entre les individus, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de dicter les codes. Et entre ces trois amis, il y a dans cette pièce de théâtre tout ce débat que je trouve extrêmement, extrêmement intéressant.
Ouais. Bruno Smadja, l'art, l'œuvre d'art en elle-même, vous êtes d'accord avec cette pensée, c'est l'interprétation que l'on en fait, qui en fait sa valeur, qui en fait sa richesse.
Complètement d'accord.
Parce que c'est pareil pour la vidéo, pour le cinéma. On a besoin de rentrer dans une œuvre d'art.
Non, complètement d'accord. Je crois
d'être aspiré.
Je crois que c'est la révolution des années des années de Duchamp qui nous fait basculer dans ce rapport à l'art qui est complètement différent. On voit Wai Wai. Moi, j'ai vu une expo au Mucen en ce moment, Wai Wai, qui présente des œuvres de ready made. Et donc cette forme là où il prend des objets et il en fait des œuvres d'art. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'être humain, et c'est ce que vous disiez, depuis les cavernes, l'être humain a besoin de l'art pour vivre, a besoin de l'art pour se penser, pour s'imaginer, pour imaginer son futur. Et c'est ça le plus beau. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est art. Et l'important, c'est l'artiste qui va le travailler et le spectateur qui va le vivre et le recevoir.
Alors, on va continuer ce débat sur l'art très intéressant, en parlant de Jeff Koons, en parlant de David Hockney, qui était dans l'actualité cette semaine pour avoir vendu. En tous les cas, l'une de ses œuvres a été vendue plus de 90 millions de dollars. Il en fait l'artiste vivant le plus cher sur la scène. On va poursuivre tout cela dans un instant. La suite des informés. Avant cela, à 20h40, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desec.
Les partis d'opposition appellent le gouvernement à réagir après la journée de mobilisation des Gilets jaunes. Importante mobilisation, 282 000 participants, 2000 points de rassemblement et des incidents. Une femme est morte en Savoie, 227 personnes ont été blessées, dont des membres des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés à Paris alors que le cortège de Gilets jaunes comptait atteindre le palais de l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, appelle au calme et à la responsabilité de chacun. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé en Californie. Il souhaite apporter son soutien aux pompiers. Ils sont près de 9000 et tentent tant bien que mal d'éteindre les deux gigantesques incendies qui touchent l'État américain. Incendie meurtrier, plus de 70 morts et 600 personnes portées disparues. Le rugby est un espoir pour les supporters du 15 de France, voire une victoire et en bonus du beau jeu. Les Bleus affrontent l'Argentine en test match, coup d'envoi 21h05. Un peu plus tôt, les Françaises ont montré l'exemple. Elles ont battu pour la première fois les Néo-Zélandaises 30-27. En tennis, Roger Federer, éliminé du Masters de Londres, battu en demi-finale par Alexander Zverev 7-5-7-6. L'Allemand affrontera en finale Novak Djokovic ou Kevin Anderson, l'autre demi-finale qui débute dans quelques minutes. Prudence, si vous vous trouvez dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, les deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour risque d'inondation.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
David Hockney, Jeff Koons, Banksy a l'honneur dans ses informés. Nathalie Moret, lorsque Jeff Koons est condamné la semaine dernière pour plagiat, pour avoir réinterprété à sa façon une publicité d'une marque de prêt-à-porter, s'approprier une publicité, est-ce que c'est faire œuvre de création?
Mais bien sûr.
On pense à Warhol, forcément.
Mais on pense à tous les artistes.
Jeff Koons,
par exemple,
qui
n'a fait que ça. Il n'a fait que ça,
Jeff
Koons, toute sa carrière. Et toutes ses œuvres les plus emblématiques sont des objets détournés et transformés parce qu'il les agrandit, parce qu'il change les matériaux, parce qu'il change les couleurs. Ça devient une œuvre d'art qui nous interroge, qui nous passionne ou qui nous agace, mais en tous les cas, qui fait débat. Et oui, effectivement, cette condamnation, ça pose problème parce que tout est art, vous le disiez.
Mais une publicité, c'est une œuvre d'art.
Mais évidemment.
Un auteur qui reprend.
En tous les cas, c'est une source d'inspiration. Et effectivement, de condamner un artiste.
C'est une source d'inspiration.
Bah, évidemment.
Mais quand on reprend quelques notes de musique, on a le droit de condamner un artiste pour plagiat. Quand on reprend, si je reprends des pages entières de votre ouvrage, je vais être condamné pour plagiat. Mais en art, c'est possible, Bruno Smadia? En art plastique? Ça pose question.
Ouais, ça pose question, mais la comparaison avec la publicité n'est pas de l'art. La publicité est une démarche qui est là pour faire vendre.
C'est pas une publicité, c'est l'emblème d'une marque. Mmh. C'est ça qui a été repris. C'est un certain type de cochon, hein, pour qui est celui qui on associe à une marque. Et donc, sans doute, mais moi, je n'ai pas travaillé sur le jugement, mais je pense que sans doute le tribunal s'est basé sur la référence à la marque, la manière dont le code avait été repris, utilisé, sachant qu'il s'agit de l'emblème de cette marque. Enfin, moi, j'imagine.
En tout cas, si je puis me permettre, je trouve que celui qui est le plus intéressant en ce moment, c'est Banksy, justement dans son approche et dans le grand coup de pied au cul qu'il met au marché de l'art.
Parce qu'il détruit lui.
Non, pas du tout.
Enfin, il en fait une autre création.
Non, pas du tout, parce qu'il ne vend pas ses œuvres.
Oui. Ouais.
C'est surtout pour ça.
Parce qu'il
ne vend rien du tout. Parce que lui, c'est un artiste de la rue, c'est un artiste qui a une forme d'acte révolutionnaire, et qu'il rentre pas, et il s'oppose. L'opération qu'il avait fait à New York, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, dans Central Park, où il s'était déguisé, s'était filmé, et il avait vendu $40 des œuvres qui potentiellement ont valé une fortune, parce qu'elles étaient signées Banksy, c'était lui qui les faisait. C'était aussi une manière de se moquer de cette façon qu'on a de marchandiser l'art, alors que l'art en tant que tel, il n'a pas nécessairement une valeur marchande, c'est pas pour ça qu'il est plus beau ou meilleur ou ainsi de suite.
Bruno Smadia, vous organisez le Mobile Film Festival, est-ce que l'on peut faire une œuvre d'art avec un téléphone portable?
Sans aucun doute.
C'est le but de votre festival?
Le but de mon festival, c'est d'accompagner à la découverte de jeunes réalisateurs et de jeunes réalisatrices. Oui, absolument.
Donc, vous avez sélectionné 51 films, 51 courts-métrages d'une minute, réalisés à partir de téléphones portables.
Oui.
Tout le monde peut le faire?
Oui.
Tout le monde peut s'improviser réalisateur, créateur?
Ah bah, tout le monde a le droit d'essayer, puisqu'on a reçu 700 films de 81 pays. Donc tout le monde a le droit d'essayer. Et après, c'est le deuxième élément de notre festival, c'est une minute. Et une minute, c'est compliqué, c'est du storytelling, c'est de la narration, c'est de l'écriture de scénario. Et là, ça devient difficile. Et là, du coup, avec les 50, on peut aller chercher ce que nous, on estime les meilleurs d'entre eux et les plus intéressants. Pour défendre cette année, c'est une caractéristique de cette édition, pour défendre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui est un élément extrêmement fort et dont je suis très très fier. Donc le thème, c'était Stand Up for Human Rights, et voilà, on a eu des messages extrêmement forts sur le droit des femmes, sur le droit des migrants, sur le droit des minorités LGBT, sur la peine de mort, sur la liberté de la presse et la défense des journalistes qui sont tués partout dans le monde aujourd'hui parce qu'ils essayent de porter un discours de vérité. Et donc voilà, des films qui sont très très beaux.
Marcus Gabriel, dans votre ouvrage, vous écrivez « Au cinéma, nous donnons naissance aux aliens que nous voyons à l'écran en interprétant le film par le seul fait de le regarder. Au cinéma, nous sommes aspirés dans l'existence propre du film. »
Oui. Par exemple, les aliens ou bien Star Wars, etc. C'est quoi? Donc, dans le cinéma, littéralement, qu'est-ce que nous voyons? Donc, en réalité, c'est des effets photomécaniques. Hein? Ce qui se déroule devant nous ne sont pas évidemment des aliens, parce que les aliens n'existent pas.
Ah,
donc,
vous m'assurez.
Oui. Mais attention, le film Les Aliens ou Star Wars, etc., parle de soi-même. Par exemple, dans mon interprétation de Star Wars, le sujet du film n'est pas une guerre galactique, etc., mais plutôt une guerre qui devient un star à Hollywood. Star Wars. Donc, c'est un show, hein, des acteurs, etc., et nous assistons. Donc, nous donnons de l'argent aux acteurs en attendant, par exemple, une performance d'une pièce de théâtre, un cinéma, etc. Donc, il y a toujours déjà un échange économique entre le récepteur, ça veut dire l'interprétation, l'audience, etc., l'œuvre et quelqu'un qui en profite.
Tout ça n'est qu'illusion.
Oui, évidemment, c'est l'art.
Que ce soit le cinéma, les arts plastiques, tout est illusion.
Pure illusion. Alors,
mais avec un fond commercial derrière.
Oui, un fond très très commercial, mais l'illusion en tant que telle, ça veut dire l'existence de l'œuvre d'art, n'a rien à faire avec le marché. Donc l'art en soi n'est pas économique. L'art est amoral, apolitique, asocial, comme j'écris, l'art en soi, ça c'est son pouvoir. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut hétéronomiser, ça veut dire profiter de quelque chose de, pour ainsi dire, transcendant.
Hélène Risser, l'art est destiné à provoquer, à faire réfléchir, à transcender.
L'art peut
Et il y a une valeur économique derrière, après.
L'art peut dessiner à plein de choses, oui, mais la question, c'est effectivement, entre la valeur artistique et la valeur marchande, il y a évidemment, c'est ce que vous expliquez, un fossé, et on peut distinguer la valeur artistique de la valeur économique, mais peut-être comme dans vos petits films, qui ne seront pas vendus, je ne sais pas s'ils rapporteront grand-chose à leurs auteurs, on est tout à
rien,
fait là dans l'art
rien.
Pour l'art.
Surtout pas.
Ouais. Voilà, surtout pas.
Non, surtout pas, rien.
Attention,
ils peuvent leur apporter la notoriété,
monétiseront peut-être.
On est déjà à 12 millions, on espère atteindre les 20 millions sur cette édition de vues. Donc c'est aussi l'opportunité pour eux ensuite de déclencher une carrière, d'aller vers d'autres projets avec plus de moyens, puisque le cinéma est un art industriel, donc il a besoin de beaucoup de moyens économiques pour pouvoir exister et faire croire aux aliens qu'ils existent vraiment.
Donc il n'y a pas de critère objectif à la valeur d'une œuvre d'art, c'est juste l'émotion qui parle et qui donne une valeur. En
le
plus du marché,
de quoi, économique ou artistique?
Il y a les deux.
Ah, les deux, oui.
Il y a les deux.
Les deux ne sont pas forcément liés. Il n'y a pas forcément de connexion directe entre les deux.
Mais les deux existent. Alors, les deux existent. Alors, le valeur esthétique pure est une fonction de ce que j'appelle dans mon livre une composition. Donc, ça veut dire il y a des règles d'organisation, un dispositif d'éléments esthétiques dans une œuvre d'art, comme dans une symphonie, par exemple. Il y a la partiture, il y a les sons, etc. Et là, ça, c'est le valeur esthétique. Et le valeur économique n'a rien à faire avec ça, hein, en réalité. C'est comme de l'argent. Hein. 5 euros n'a pas la valeur de 5 euros.
Oui, d'accord. On va poursuivre ce débat des informés dans un instant avec vos coups de cœur. Il sera peut-être question d'art. Puis on va parler de rugby dans un instant parce qu'il y a un rendez-vous pour les rugbymen français à 21h05. Avant cela, à 20h50, très précis, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Romain Desac.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, appelle au calme et à la responsabilité de chacun après les incidents qui ont émaillé la journée d'action des Gilets jaunes. À Arras, Tarbes, Strasbourg ou encore Lannion, des automobilistes ont renversé des manifestants qui bloquaient ou filtraient la route. L'incident le plus grave s'est déroulé en Savoie. Une femme de 60 ans est décédée après avoir été percutée. Au total, 227 blessés dans les différents regroupements. Et certains axes autoroutiers étaient à 19h, toujours toujours bloquée. Aux États-Unis, Donald Trump est là, aux côtés des pompiers en Californie. Il souhaite leur apporter son soutien. Près de 9000 soldats du feu luttent actuellement contre de gigantesques incendies qui ravagent l'État. On dénombre plus de 70 morts et des centaines de disparus. Un élu de la métropole d'Aix-Marseille-Provence démissionne. Cet avocat en droit immobilier, propriétaire d'un logement insalubre situé dans les quartiers nord de Marseille. Cela intervient quelques jours après l'effondrement de plusieurs immeubles dans la cité phocéenne. L'épave du sous-marin argentin San Juan a été retrouvée à 870 mètres de fond dans l'Atlantique. L'histoire avait bouleversé le pays et mobilisé des dizaines de nations afin de le retrouver il y a un an. 44 marins se trouvaient à bord. C'est une explosion en interne qui aurait provoqué la catastrophe. Et puis, qui affrontera Alexander Zverev, tombeur de Roger Federer en finale du Masters de Londres? Début de réponse dans 10 minutes. Novak Djokovic affronte Kevin Anderson.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors avant de parler rugby dans ces informés de France Info, on va, je vais vous proposer un coup de cœur. Hein, comme tous les samedis soirs, on termine ces informés par un coup de cœur. Hélène Risser, vous avez choisi de nous parler. Mais tiens, cinéma, on parlait cinéma.
Oui, voilà. J'aurais pu prendre The Square, qui avait eu la Palme d'Or, qui était un film extraordinaire sur le marché de l'art et sur l'art. Non, mais finalement, moi, j'ai choisi L'amour flou de Roman Boringer. Alors c'est intéressant aussi comme démarche artistique parce que c'est comment utiliser sa vie pour la sublimer, puisque qu'elle est partie de sa séparation pour faire ce film. Et donc, comment on fait une œuvre d'art en sublimant sa vie? Et moi, je trouve que c'est un très chouette film.
C'est un couple qui se sépare, il y a des enfants.
Il y a des enfants. Et alors qu'ils inventent un appartement, ils emménagent, ils font non pas une garde alternée, mais ils vivent chacun dans un appartement qui communique par la chambre des enfants, voilà, qui est le no man's land, si vous voulez. Mais ça, c'est le point de départ, c'est le côté un peu ludique. Sinon, le film explore beaucoup plus profondément, je trouve, les rapports de couple et des couples qui se séparent.
L'amour flou, Roman Boringer, prix du public à Angoulême. Marcus Gabriel, vous avez choisi de nous parler d'une série allemande que nous ne connaissons pas encore ici.
Oui. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, la série s'appelle Deutschland 86, Allemagne 86. Et c'est une déconstruction de l'Allemagne contemporaine à travers le prisme de son passé récent. Ça veut dire, c'est une série très, très comique, en un certain sens, et à la fois super sérieuse.
Ah, il est question, j'ai lu un petit peu le résumé, il est question d'agents secrets de l'Est qui partent en Afrique, mais qui partent aussi à l'Ouest, à Berlin-Ouest, à Paris.
Et à Paris,
Et il y a des morts et il y a de l'argent aussi.
Oui, exactement, oui. Et c'est une reconstruction de tous les paradoxes des années 80 qui nous ont encore, je crois. Donc ça montre très très bien les paradoxes que nous avons aujourd'hui en Europe.
Nathalie Moret, votre coup de cœur.
C'est Indochine, le groupe Indochine, qui a rempli cette semaine 5 fois Bercy. C'est l'équivalent d'un stade de France. Ça fait 35 ans qu'ils sont là. Ça fait 35 ans que Nicolas Sirkis, bientôt 60 ans, et qui en paraît toujours 40, est là.
Un peu moins même.
Et c'est incroyable parce que dans la salle, il y a des gens qui ont son âge ou pas loin. Et puis, il y a aussi des jeunes, des jeunes qui ont 15, 25 ans. Donc, il a totalement renouvelé le public, mais il est toujours là. Il remplit les salles en France depuis le mois de février. C'est complet tout le temps.
Et ça continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon, Clermont, Amnéville.
Ça va continuer. Le tout avec une politique tarifaire extrêmement basse et c'est sa volonté à lui. Donc je trouve que c'est à souligner. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'assez formidable.
Bruno Smadja, votre coup de cœur?
Eh ben moi, c'est une initiative de YouTube au niveau mondial qui s'appelle Creators for Change, créateurs pour le changement.
Ah voilà, c'est en français, c'est mieux.
Absolument, mais ils sont quand même un peu américains, donc ils l'ont appelé comme ça. Et en fait, c'est une initiative où ils ont rassemblé des YouTubeurs du monde entier, dans un tas de pays, et ils leur ont demandé de travailler sur le changement écologique, le changement sociétal, le changement de vie, le changement de société. Et ça donne des résultats qui sont créativement et narrativement très intéressants. Intéressant et qui montre aussi un autre regard de la part de ces youtubeurs que souvent on regarde de manière assez réductrice alors qu'ils font des choses beaucoup plus intéressantes qu'on ne le pense.
Alors, je vais vous ramener sur un événement un peu plus terre à terre. Dans 10 minutes va commencer le match de rugby, le deuxième match de la tournée d'automne entre le 15 de France et l'Argentine. Il y a eu une grosse déception samedi dernier contre les Springboks sud-africains. Fanny Lechevestrier, les Français ont échoué de justesse samedi dernier au Stade de France. On attend d'eux ce soir une réaction parce qu'on rappelle que dans un an, ils vont retrouver ces mêmes Argentins en Coupe du Monde au Japon.
Ouais, ça sera le 21 septembre exactement qu'ils retrouveront en match de poule ces Argentins. Et c'est plus qu'une réaction, hein. On va dire qu'on attend d'eux, on attend vraiment la victoire ce soir. Il faut gagner parce que sinon, eh bien, les Français vont tout simplement signer la pire série de défaites quasiment de l'histoire. Ça fait 49 ans qu'il n'y avait pas eu 6 défaites d'affilée. Donc, faut absolument arrêter l'hémorragie du côté des tricolores.
Alors voilà, merci Fanny Lechevestrier. Ce France-Argentine à Villeneuve-d'Ascq, on va le suivre en direct sur l'antenne de France Info et on espère donc une réaction d'orgueil des Français après la déconvenue de samedi dernier contre les Sud-Africains. Je remercie nos invités ce soir, nos informés. Je remercie Hélène Risser d'avoir participé à cette émission. On vous retrouve sur la chaîne donc Public Sénat avec l'émission hashtag, c'est en replay quand on peut pas la regarder
voilà,
en direct.
En replay. En permanence sur le site de Public Sénat.
Je remercie notre philosophe allemand Marcus Gabriel de nous avoir parlé du pouvoir de l'art aux éditions Saint-Simon, un essai très facile à lire. Très simple, merci à vous. On poursuivra cette aventure en vous lisant. Merci également à Nathalie Moret, journaliste politique du groupe de presse Herbra. On signale que, on rappelle que ce sont tous les journalistes, tous les journaux.
Tous les journaux de l'Est de la France, ouais, de l'Est au Dauphiné.
Voilà, on remercie également Bruno Smadja, fondateur du Mobile Film Festival. 14e édition, c'est jusqu'au 27 novembre. Un grand merci à tous pour cette émission. Restez avec nous dans un instant, la météo, l'info. Et puis comme d'habitude, on se retrouve demain 20h-21h pour un nouveau numéro des Informés. Et puis on reste en contact sur franceinfo.fr. Bonne soirée.